bonne fin de journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir, rencontre avec. Bonsoir, rencontre avec ce soir. Mon invité, c'est l'espace Rambouillet. L'espace Rambouillet avec son directeur Philippe Belchi, ainsi que Romuald de Roman qui s'occupe de l'attraction liée au rapace, mais nous en parlerons tout à l'heure. Alors Philippe Belchi, faites-nous une présentation. D'abord, pourquoi espace Rambouillet? Et ensuite, en complément, vous allez nous faire une présentation de ce parc que vous voulez moderne. Vous le situez dans le modernisme.
Alors en fait, l'espace Rambouillet est un site de l'Office National des Forêts, qui est né il y a une dizaine d'années sur l'emplacement d'un parc qui existait déjà depuis 1972, qui s'appelait le parc animalier des Yvelines, et qui avait pour but de proposer d'observer des animaux de la faune indigène des forêts françaises, des forêts franciliennes, c'est-à-dire les cerfs, biches, chevreuils, daims, sangliers, c'est-à-dire des animaux qui sont courants dans nos forêts, mais que finalement le promeneur du dimanche a peu l'occasion d'observer, parce que pour voir ces animaux, eh bien, il faut être quand même un peu initié, il faut bien connaître la forêt, bien connaître les habitudes des animaux, prendre le temps de se promener en forêt, et ce n'est pas facile finalement d'observer ces animaux. Et donc dans les années 70, l'Office National des Forêts, alors qu'il y avait déjà à cette époque un peu les prémices de l'envie de connaître la forêt, de connaître l'environnement, le milieu naturel, de connaître les animaux, l'Office National des Forêts avait créé ce parc animalier où les visiteurs pouvaient venir à la rencontre de ces animaux qui vivent ici, chez eux. Hein. Mmh. C'est un peu l'homme qui vient au pays de l'animal. Et dans un contexte un petit peu différent d'un parc zoologique traditionnel, puisque nous, nos animaux sont dans de grands espaces. On peut, par exemple, aller voir des cerfs, des sangliers, dans une partie qui, à elle seule, fait 180 hectares. Donc, même si c'est clos, c'est très grand, et quand on est à l'intérieur, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un espace fermé.
Alors physiquement tout y est, il y a les espaces avec de l'eau, enfin tout y est quoi.
Oui, c'est une forêt, c'est une forêt dans toute sa diversité, avec des zones très boisées, des zones de clairière, avec il y a même un petit peu de relief, il y a des zones de pente, il y a des mares, il y a des points d'eau, il y a des ruisseaux, donc on va retrouver là un faciès caractéristique de forêt en Île-de-France.
Et donc l'animal n'est pas dépaysé, il est dans son milieu naturel.
Absolument, c'est son biotope, il a l'habitude de vivre là, ça lui correspond, donc il n'y a aucun problème pour lui de vivre dans cet espace-là.
Très bien. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur l'aspect pédagogique de votre démarche.
Eh bien, elle s'inscrit dans ce que cherche l'Office National des Forêts. Il faut rappeler que l'Office National des Forêts, qui est un établissement national, a plusieurs missions. D'une part, un rôle de gestion des forêts publiques, des forêts de l'État, hein, que nous appelons les forêts domaniales. Une gestion durable de ces forêts, c'est un mot qui est très utilisé à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose que les forestiers connaissent depuis plusieurs générations. Hein. On sait que faire une forêt, faire pousser des arbres, ça prend du temps. On est sur des cycles de 220 à 250 ans.
Et ça, donc, vous l'expliquez dans votre réception des différents
groupes,
vous expliquez tout ça.
C'est quelque chose que nous abordons, en particulier avec les scolaires, lorsque nous accueillons des classes dans le cadre de modules pédagogiques. Et lorsque nous parlons de la forêt, nous parlons de l'écosystème forestier, nous abordons ces cycles qui sont loin de l'instantané informatique que nous avons actuellement. Et cette notion de gestion durable, c'est vraiment quelque chose d'important pour le forestier. Si nous avons des forêts aujourd'hui, c'est bien parce que les forestiers des siècles derniers ont géré ces forêts dans le sens d'une gestion durable. Et il nous appartient à nous, forestiers du 20e et 21e siècle, eh bien de transmettre ce patrimoine.
D'accord.
Et de veiller à la bonne pérennité des forêts. Et on fait cela sans, tout en prenant en compte aussi l'aspect économique d'une filière pierre-bois, puisque on sait bien, les objets en bois, les meubles en bois, c'est quelque chose d'assez prisé, mais pour avoir un objet en bois, à un moment, il faut bien couper un arbre.
Il faut un arbre.
C'est pas faire autrement. Mais ce n'est pas grave de couper un arbre à partir du moment où il est géré dans le cadre d'une gestion durable. Voilà pourquoi l'Office National des Forêts bénéficie d'un label européen, qu'on appelle le label PEFC, et tous les bois qui sortent des forêts domaniales, lorsqu'elles se retrouvent en vente pour les particuliers sous forme de planches, de meubles, eh bien elles ont ce label PEFC, et donc on sait que le bois que l'on achète provient d'une gestion durable et on ne contribue pas à la déforestation en achetant ces objets.
D'accord. Ce qui veut dire que quand vous abattez un arbre, il y a automatiquement derrière une démarche pour en replanter un, deux ou trois.
Oui, c'est une technique particulière. Qui a longtemps été étudié par plusieurs générations de forestiers. On appelle ça de la sylviculture, c'est un peu l'agriculture de la forêt. Et donc, lorsqu'on va couper des arbres qui vont donc sortir de l'espace forestier, eh bien, il y a toute une technique qui consiste à faire en sorte que de jeunes arbres poussent, la plupart du temps naturellement. Un chêne bien portant va produire des glands, les glands vont tomber au sol, vont germer, ce sera les arbres de demain. Actuellement, les chênes qui sont tombés ces deux ou trois dernières années vont nous donner la forêt de l'an 2100, 2150, 2200. Et la plupart du temps, on essaye de faire en sorte d'avoir ce que l'on appelle une régénération naturelle des espaces boisés. Alors évidemment, quelquefois, on est obligé de compléter un petit peu à partir de plantations qui vont être réalisées par les forestiers.
D'accord. Alors, vous faites partie intégrante de l'ONF, on l'a vu. Alors, comment avoir glissé vers cette activité, disons, marginal ou non, d'ailleurs, parce que c'est peut-être complémentaire avec les activités de l'ONF. Alors, à ce sujet, rappelez-nous rapidement quels sont les différents métiers qui exercent à l'intérieur de l'ONF.
Alors, le métier principal...
Parce que c'est très varié, en fait.
Oui, bien sûr, il y a des métiers très, très variés. Le métier principal, c'est le métier de gestionnaire de la forêt, de cultivateur de la forêt. On vient d'en parler, c'est la gestion durable de la forêt.
Bien sûr.
À côté de cette mission principale, il y en a d'autres qui consistent à s'occuper de zones particulières qui nécessitent une protection pour des raisons variées. Donc, je citerai deux exemples. Vous savez que sur le cordon littoral de la façade atlantique en France, on a dans les Landes, par exemple, une grande dune et puis un grand espace boisé, puisque le département des Landes est le département le plus boisé en France. C'est une forêt privée essentiellement, mais l'État gère 5 ou 10 kilomètres de large entre la côte et l'intérieur des terres, une bande forestière qui a pour but non pas de produire du bois, mais essentiellement de protéger l'intérieur des terres, protéger des embruns, des sables et surtout fixer cette dune qui permet de constituer un abri naturel.
C'est Napoléon d'ailleurs qui avait...
Voilà, c'est à partir de notamment Napoléon III où de grands travaux ont été réalisés. Donc ça, c'est une opération de protection. On pourrait parler aussi de la protection des hauts versants dans le sud-est de la France, dans les Cévennes, dans le sud des Alpes, dans la vallée de la Maurienne par exemple, où suite à des déboisements importants qui ont eu lieu après la Révolution, il y a eu lors des orages des phénomènes d'érosion, la terre était emportée par les eaux, les eaux se retrouvaient très rapidement en fond de vallée, d'où des inondations, et il a fallu faire de grands travaux pour replanter ces hauts de versant dans le cadre de la régularisation du régime des eaux. C'est ce que l'on appelle globalement la restauration des terrains en montagne. Donc là, ce sont des lois très anciennes qui datent de 1860-1880 et qui ont permis de stabiliser l'érosion et de maintenir un espace boisé de façon à jouer ce rôle de protection. Donc là aussi, on ne cherche pas la production, mais la protection. Donc c'est un deuxième métier qu'on pourrait identifier au sein de l'Office national des forêts.
D'accord. Et évidemment, il y a une hiérarchie, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des administratifs. Comment ça se passe ?
Bien sûr, il y a des équipes plurifonctionnelles de niveaux très différents. À l'Office national des forêts, il y a environ 11 000 personnes qui travaillent. La moitié ont un statut de fonctionnaire, d'autres ont un statut de droit privé. Il y a du personnel administratif, évidemment. Et puis, il y a du personnel technique. On va pouvoir rencontrer rencontrer en forêt des équipes d'ouvriers forestiers qui vont faire des travaux très concrets de plantation, d'entretien en forêt. Il y a aussi des équipes de techniciens qui sont chargés de faire des relevés, des analyses, de prévoir à la fois les coupes de bois, les plantations, l'entretien général des forêts. Et puis, il y a aussi des services de prévision, de recherche et de développement dans différents domaines.
Bien. Alors, au point de vue formation, vous passez par quelle filière? Enfin, la majorité des gens qui sont à l'ONF passent par quelle filière au point de vue formation? C'est un bac...
Voilà, il y a tous les niveaux. Hein. On peut très bien passer un niveau BEP, option production forestière, niveau BTS, et puis niveau ingénieur. Donc là, tous les niveaux sont représentés.
D'accord. Et quelles sont vos relations avec la filière du bois, les commerçants du bois? Vous avez des relations avec eux?
Eh bien sûr, parce que ce sont en quelque sorte nos clients. Ouais. Nous sommes complètement en amont de la filière. C'est-à-dire qu'on produit la matière première. Hein, et le bois est une matière première intéressante, puisque a priori, elle est renouvelable. Ouais. On pourrait presque dire à l'infini. Ouais. Alors, c'est peut-être pas avec un fagot de bois qu'on va aller sur la Lune, mais c'est quand même une matière première non négligeable et qui peut-être n'a pas été encore valorisée à sa juste valeur, parce qu'il y a plein de choses que l'on peut faire.
Par exemple
alimenter des chaudières qui vont à partir des sous-produits du bois, des déchets entre guillemets. Quand vous coupez un arbre, vous récupérez le tronc principal, hein, qu'on appelle l'agrume, pour faire des planches, pour faire des meubles. Et puis vous avez des branches, vous avez tout un reliquat de bois qui n'est pas facilement exploitable en industrie classique, mais on va pouvoir en faire des copeaux et alimenter des chaudières. Et peut-être que pour chauffer des locaux administratifs, des mairies, des collèges, des gymnase, c'est une énergie qui peut être complètement valorisée à partir de cette matière première bois.
Bien, alors Philippe Belchi, on va recentrer un petit peu le débat sur Espace Rambouillet. Alors là aussi, on veut tout savoir. Hein. Alors combien d'entrées par an, par exemple, quelle est la proportion dans les différentes catégories d'âge, etc. L'approche dans la scolarité également, enfin dans le milieu scolaire. Dites-nous tout, expliquez-nous.
Alors là, l'Espace Rambouillet rentre dans une troisième mission de l'Office National des Forêts qui consiste à accueillir des visiteurs en forêt. On ne fait pas que de la gestion forestière, mais il a paru intéressant, et ça a été d'ailleurs une demande de l'État, d'ouvrir les forêts au public, de façon à ce qu'elles jouent un rôle social. Et je crois qu'en région Île-de-France, qui est surtout dans la partie ouest et sud de l'Île-de-France, où nous avons de belles forêts domaniales, mais nous avons aussi beaucoup de zones urbaines assez denses, assez importantes, et bien la forêt est perçue comme à la fois un élément naturel qui est garant d'un certain confort et d'un certain cadre de vie, et donc c'est quelque chose qui est assez important. Donc il nous a paru intéressant de répondre à l'attente des citoyens, des franciliens en l'occurrence, parce qu'ils n'ont pas envie à l'heure actuelle de venir simplement consommer entre guillemets la forêt. Dans les années 60, c'est vrai qu'on voyait des familles se promener le dimanche, on posait la voiture, on passait un moment agréable, on sortait le transistor et puis on était à l'air, et maintenant c'est un petit peu différent. Les gens ont pris conscience que l'écosystème forestier, c'était indispensable pour la vie de la planète, et donc ils ont envie de connaître un petit peu mieux cet espace, et de connaître les arbres, de connaître les animaux, et peut-être parce que derrière tout ça, peut-être de façon inconsciente, il y a l'envie de protéger aussi, ou de participer, d'être un peu sans le savoir, un éco-citoyen, et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour, et moi aussi, participer à la protection de la forêt et de cet environnement qui est autour de chez moi et qui est important. Et donc l'Office National des Forêts s'est dit, on va essayer de répondre à cette demande. Donc il y a plusieurs façons d'y répondre, et l'Espace Rambouillet, donc né sur cet ancien parc animalier qui avait déjà vu les prémices de ce changement de point de vue de la société, répond à cette question à plusieurs titres. D'une part, dans le sens de la connaissance générale au niveau des individus, des individuels, des familles qui viennent se promener, des enfants, les grands-parents, et qui ont envie de passer un moment agréable et d'apprendre un certain nombre de choses. Donc ça, c'est tout à fait possible à l'espace Rambouillet. Nous sommes ouverts les week-ends et nous proposons aux visiteurs d'aller à partir d'une marche, puisque l'espace Rambouillet se visite à pied, d'aller à la rencontre des cerfs, des chevreuils, des sangliers et d'aller voir le balai particulier des rapaces, qui sont des oiseaux tous protégés, parce que beaucoup sont en voie de disparition.
Et alors donc, ça, c'est le côté ludique de fin de circuit, je dirais.
Oui, pas forcément, ça fait un tout, hein. Ouais. C'est assez intéressant. Alors, il y a un côté un peu plus spectaculaire qui est donné par les rapaces, mais vous savez, quand vous avez marché pendant une heure en forêt, en cherchant et en essayant de trouver la technique d'observation, c'est-à-dire être silencieux, persévérant, ne pas courir, observer de loin, vous êtes approché tout doucement, vous cachant derrière un peu les arbres, parce que vous avez aperçu de loin quelque chose qui bougeait, et que pendant 10 minutes, vous observez des sangliers, une laie avec ses marcassins, c'est magique. Aussi, c'est un spectacle très très intéressant et qui donne des frissons pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'en voir. Donc c'est cet ensemble de choses qui donne l'intérêt de découverte de la forêt.
Alors, en semaine, on l'aura compris, c'est plutôt les scolaires qui viennent vous visiter.
Là, c'est le deuxième volet de l'espace Rambouillet qui est tout aussi important que le premier. C'est le volet pédagogique.
D'accord.
Et là, effectivement, nous avons énormément de groupes d'enfants qui viennent, que ce soit des scolaires ou que ce soit des centres de loisirs, parce que l'Office national des forêts a souhaité, là aussi, proposer un outil pédagogique aux enseignants. D'accord. Et c'est de plus en plus d'actualité, en particulier avec les primaires, tous les domaines qui touchent à l'environnement et à la connaissance de l'environnement sont très prisés, et à l'espace Rambouillet, on propose aux enseignants de venir rencontrer les forestiers et de venir faire une démarche d'observation. Donc nous avons tout un ensemble de propositions, que ce soit des sorties uniques, des cycles de 3 visites au cours d'une même année scolaire, où l'enseignant peut voir plusieurs facettes, peut travailler en classe entre les visites. Nous avons de la documentation pédagogique, notamment un livret qui a été réalisé avec des inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'éducation nationale. Donc c'est un réel produit pédagogique qui répond tout à fait aux ambitions de l'éducation nationale.
Et alors, le week-end, on l'aura compris, c'est plutôt la famille qui vient visiter l'espace Rambouillet, assister, voir des animaux, assister au spectacle de la fauconnerie, etc. C'est plus familial, c'est plus... Alors, quelle est la meilleure clientèle ? Parce que la clientèle des scolaires est captive, est captivée, je dirais, parce qu'elle est préparée par les enseignants, et les familles sont moins préparées à cette visite.
Ah, la meilleure clientèle, vous savez, c'est comme la mauvaise herbe, hein. Ouais. Elle est mauvaise parce qu'elle n'est pas à l'endroit où on veut ou à un moment où on n'aime pas.
Ouais.
Pour un forestier, il n'y a pas de mauvaise herbe.
Ouais.
Il n'y a pas de mauvais client non plus. Je crois que chacun
Mais qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Non, on n'a pas de choix. C'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec les enfants, parce qu'on s'aperçoit qu'ils voient énormément de choses, qu'ils connaissent déjà énormément de choses, qu'ils vont et dans la représentation, quand souvent ils nous envoient leur rendu, ce qu'on appelle leur rendu, le travail qu'ils ont fait ensuite en classe, la façon dont ils dessinent les animaux, la façon dont ils apprennent tous les termes techniques de cerf, de biche, de faon, la reproduction, le houppier, les branches, la germination, la photosynthèse, toutes ces notions qu'on leur a données lorsqu'ils sont venus, on s'aperçoit que vraiment il y a des esprits vifs et que c'est important de bâtir dès le plus jeune âge un état d'esprit respectueux de la nature. Donc ça, c'est important. Mais avec le grand public, c'est pareil. Souvent, les questions sont abordées différemment parce que les gens ont déjà des idées. Ouais. Mais des idées pas forcément bonnes, finalement. Quelquefois, j'ai entendu dire j'ai l'impression que et nous, on leur parle en tant que spécialistes de la vérité vraie, finalement, de la nature, sur des sujets aussi différents et variés que à la fois la connaissance des espèces, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les animaux sauvages que l'on trouve blessés, des sujets autour de la chasse, des sujets autour de plein de choses différentes.
D'accord. Bien, vous, en tant que directeur, alors dites-nous combien de personnes personnes vous combien de personnes travaillent à l'espace Rambouillet et combien, grosso modo, d'entrées par an?
Alors il y a environ une vingtaine de personnes qui travaillent à l'espace Rambouillet, entre des hôtesses d'accueil, des guides qui vont encadrer les scolaires ou accueillir le public individuel, une équipe de fauconniers qui va réaliser les présentations en vol de rapaces, hein, puisque nous pouvons observer des rapaces dans des volières de reproduction qui sont le long d'un circuit, mais aussi lors de présentations en vol qui durent environ 30 minutes, souvent il y en a plusieurs par jour. En général 3, en particulier les week-ends. Donc ces présentations sont commentées, Fauconnier a un petit micro, il va donner des explications sur la biologie, l'écologie de ces oiseaux. Donc il y a environ une vingtaine de personnes qui travaillent et nous accueillons autour de 110 000 personnes chaque année. Et la proportion est à peu près moitié-moitié, moitié groupe d'enfants et moitié individuel. Alors d'accord. Après, évidemment, tout dépend des conditions climatiques, parce que comme nous sommes un site en extérieur, évidemment, nous préférons les week-ends ensoleillés que les week-ends pluvieux.
Certainement. Bien, alors, on va rentrer dans des détails, mais des détails qui intéressent le grand public, les gens qui nous écoutent derrière leur transistor. Quel est le prix d'entrée? Et y a-t-il de la restauration possible sur place, etc.
Alors, le prix d'entrée est de 8,70 € pour les adultes. Il y a un tarif réduit pour les enfants, un tarif réduit pour les familles nombreuses sur présentation de la carte de famille nombreuse. Ouais. Et puis surtout, il y a, puisque nos auditeurs habitent en priorité autour de Rambouillet, il y a une solution aussi pour rentrer avec des tarifs réduits qui consiste à utiliser la carte multisite qui est éditée par l'Office du tourisme de Rambouillet et qui permet de visiter tous les sites qui sont autour de Rambouillet. Donc on en visite un et on paye le tarif normal et puis après on a droit à des tarifs réduits pour visiter les autres sites. Donc voilà, il est conseillé d'utiliser cette carte pour les personnes qui peuvent aller chercher la carte à l'Office du tourisme de Rambouillet.
Alors, dernière question vous concernant, Philippe Belchi, qu'est-ce que vous pensez du classement de la forêt de Rambouillet? Parce qu'on a tout entendu, le contraire de tout, il y a des avis complètement différents, il y a des gens qui sont ravis, il y a des gens qui sont mécontents, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, c'est un vaste problème. Je ne sais pas si je peux avoir un avis éclairé sur l'ensemble de cette situation de forêt classée. En ce qui concerne la partie forêt domaniale, il faut savoir que il y a déjà des textes qui protègent la forêt domaniale.
Oui, des contraintes.
Ne serait-ce que le statut de forêt domaniale. Ouais. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le statut de forêt, on ne peut pas débroussailler, faire des coupes à blanc. En fait, tout ça était déjà réglementé. Il y a déjà, notamment dans beaucoup de communes, des plans d'occupation des sols et des espaces boisés qui sont classés espaces boisés classés, hein, EBC. Donc là aussi, il y a une autre série de protections autour de la forêt. La forêt de protection arrive par-dessus. Fondamentalement, j'ai l'impression que pour la forêt elle-même, il n'y a pas de gros changements. De toute façon, elle était déjà bien protégée et elle le sera encore plus. On ne peut que s'en réjouir. Maintenant, la forêt de protection ne concerne pas que les surfaces seulement boisées. Elle concerne l'ensemble d'un territoire, en dehors de la partie forêt domaniale. Et là, évidemment, il y a peut-être d'autres enjeux sur les parties en périmètre de la forêt qui peuvent être appréhendées de façon différente en fonction des interlocuteurs.
Très bien. Bon, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons adopter une pause musicale, voire publicitaire aussi, parce qu'il faut bien qu'on vive nous aussi. Et ensuite, on reprend. Et le deuxième volet sera consacré à la fauconnerie. Et puis, il y aura une troisième partie. Ce sera une partie de conclusion. On essaiera de voir un petit peu ce qu'on peut faire.
De pêche un oiseau. seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Chant de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Rencontre avec. Rencontre avec.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison parce que cette émission est intéressante. Donc cette deuxième partie est consacrée, alors je ne vais pas employer le terme, mais mon titre c'était spectacle de fauconnerie, mais effectivement on a, hors antenne, on a recentré un petit peu le sujet avec ces messieurs, et il faut parler de travail de présentation d'animaux qui sont dans leur milieu naturel et qui réagissent d'une façon tout à fait naturelle sans mise en scène de la part des fauconniers. Alors, je vous rappelle que je suis en compagnie de Romuald de Roman, qui est le chef fauconnier de Espace Rambouillet. Alors, Romuald de Roman, les rapaces ont toujours fasciné les hommes tout au long de l'histoire. Ils symbolisent la force, ils symbolisent la liberté. Alors, les passionnés de ces animaux en ont dressé quelques-uns pour les spectacles, les véritables spectacles, et non pas ce que vous faites, on va en reparler, la pub, le cinéma, ou tout simplement pour le plaisir des yeux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette exploitation des rapaces? Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet concernant Espace Rambouillet. D'une façon générale.
Oui, non, ça ne me pose pas particulièrement de problème. À partir du moment où les oiseaux sont utilisés à des fins très utiles, comme la pédagogie, l'information au grand public sur le danger des rapaces, sur la menace des rapaces, non, ça ne me pose pas de problème. Effectivement, des oiseaux qui sont utilisés dans des shows à la télé, c'est sûr qu'on fait connaître au grand public par les médias, ouais, ou par la publicité ou par des films, les rapaces.
Ouais.
Donc nous, à l'Espace Rambouillet, c'est pas du tout un spectacle, c'est pas du tout un show.
C'est ce qu'on a dit.
On, ouais, présente nos oiseaux dans leur aptitude naturelle.
Ouais.
On ne cherche pas à modifier leur vol ou quoi que ce soit.
D'accord.
Donc, Monsieur
Belchit a employé un terme tout à l'heure qui est très intéressant, c'est quand vous faites tourner un leurre, par exemple.
Quand on fait tourner un leurre, c'est-à-dire quand on fait voler un faucon, ouais. un grand faucon, on simule une action de chasse,
ouais.
donc, comme il pourrait se produire dans la nature. Donc on rapporte cette action de chasse sur l'aire de présentation,
ouais.
on leur présente un leurre, donc qui représente un oiseau, et cet oiseau attaque ce leurre. Donc on fait X passe,
ouais.
X attaque, et à la fin de ce vol, on lance ce leurre plein ciel, et le faucon capture donc ce leurre, se pose au sol et consomme, comme il le ferait avec un pigeon ou une tourterelle en pleine nature.
Bien sûr.
Donc là, on remet l'oiseau dans son action naturelle.
Alors, quelle est votre formation à vous? Comment vous êtes arrivé à devenir fauconnier? Parce que c'est une spécialité à part entière, quoi.
Oui, donc déjà, il faut être passionné par les rapaces,
ouais.
il faut aimer la nature. Et moi, personnellement, j'ai commencé dans une équipe de fauconnerie, dans un spectacle.
Oui, d'accord.
Voilà.
Comme au Puy du Fou, par exemple, ou comme...
Au Puy du Fou.
Ouais. Ah, vous avez commencé là-bas.
Au Puy du Fou,
d'accord.
J'ai commencé là-bas.
Et donc,
je ne connaissais pas grand-chose au niveau du dressage des oiseaux, et j'ai appris sur le tas. Il n'y a pas d'école en France. La seule école, c'est suivre un fauconnier qui ouais. transmet donc ce qu'il sait.
D'accord. Alors, il y a différentes facettes hein, quant à l'utilisation de ces rapaces. Il y a d'abord la chasse au faucon. Ça existe ?
Il y a la chasse au faucon en France.
Qui est autorisée ?
Qui est autorisée, qui ouais. est très réglementée. Donc là, il y a à peu près 150 personnes en France qui pratiquent la chasse au vol.
Ouais.
Donc ça se passe que l'hiver.
Avec leurs propres animaux ?
Avec leurs propres animaux.
D'accord.
Qu'ils ont... qui sont nés dans des parcs zoologiques ou chez des particuliers qui pratiquent aussi la fauconnerie.
Et qu'ils ont dressé eux-mêmes.
Et qu'ils ont dressé eux-mêmes.
D'accord. Bien, alors, vous êtes donc, on l'a dit tout à l'heure, le patron de cette équipe de fauconniers sur Rambouillet. Alors, d'abord, combien de personnes?
On est 6 personnes en tout dans cette équipe.
6 personnes en tout.
Pour 145 oiseaux à peu près.
Avec tous la même formation ou vous arrivez
tout
de différents horizons
parcours, ouais. au niveau des fauconniers. Après, on a 2 personnes qui présentent au micro cette présentation,
ouais.
qui ont eu un parcours un peu différent, qui sont aussi passionnés de rapaces. C'est de nature. Donc, ils se sont vite ralliés.
D'accord. Alors, combien d'animaux, combien de races de rapaces avez-vous?
Donc, on a à peu près 35 espèces de rapaces.
Alors, qu'on peut voir dans des cages
On peut voir dans les cages, dans des volières de présentation. On a à peu près une trentaine de volières dans un circuit.
Ouais.
Donc, ça va de la petite chouette effraie à la chouette hulotte, au grand duc européen pour les oiseaux nocturnes,
ouais.
au vautour fauve. Aux aigles américains, donc le pigargue à tête blanche, enfin des espèces assez variées.
Et quels sont, ça va être difficile pour vous peut-être de répondre, parce que je pense que quand on a l'amour des rapaces, c'est tous les rapaces.
Je sens la question.
Vous la sentez venir, bien. Alors quel est l'oiseau vers lequel vous êtes le plus attiré?
Ouais, je peux pas répondre. Ils sont tous.
Ils sont tous attachants. Bon,
c'est vrai qu'on a des espèces plus emblématiques que d'autres,
ouais.
plus impressionnantes. Si on prend le cas du pigargue de Stellaire, c'est évident que c'est un oiseau qui me tient beaucoup à cœur.
Ouais.
Parce qu'il y en a très peu en France. Il a un gros problème au milieu naturel. C'est une espèce qui est en déclin.
Il y en a pas mal d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. D'espèces qui sont en voie de disparition.
Ouais, il y en a pas mal, il y en a quelques-unes.
Gypaète barbu.
Gypaète barbu,
etc. Dans les Pyrénées, par exemple, c'était mythique, ça.
Oui, c'est mythique. Alors maintenant, il est réintroduit, donc il y a un plan de restauration. Le vautour fauve, c'est pareil, dans les années 50, il n'en restait pratiquement plus. Aujourd'hui, il y a presque 400 couples en France.
Ah, vous arrivez à repeupler quand même.
À repeupler, il y a eu des programmes de réintroduction
ouais.
depuis une trentaine d'années.
Comme les ours.
Comme les ours, oui. Mais ça marche mieux.
ça pose peut-être moins de problèmes.
Ça pose moins de problèmes, ouais. C'est vrai.
D'accord. Alors, cette fameuse démonstration que vous faites dans le cadre de l'espace de Rambouillet, comment procédez-vous? Vous avez des répétitions, vous avez une approche très pointue de l'animal, comment vous faites? Expliquez-nous.
Comment on fait? Alors, si vous voulez, on est...
Parce qu'il faut, en premier lieu, il ne faut pas que l'animal disparaisse.
Non.
Alors, comment vous le retenez?
C'est très facile. Hein. Très facile et très compliqué.
C'est une question bête.
C'est un travail quotidien. Il faut se faire connaître de ces oiseaux.
Ouais.
Il faut avoir la main douce. Il
ouais.
ne faut pas la rentrer dedans. Il faut qu'il y ait une bonne entente entre le fauconnier et cet oiseau. Donc, il y a un dressage en début de saison. Surtout pour les jeunes oiseaux qui n'ont jamais participé en présentation en vol. Donc il faut les amener petit à petit sur l'aire de présentation. On fait des rappels, donc des rappels tout simples. Les oiseaux sont dans un premier temps attachés avec une petite filière de 20 cm, donc ce qui nous permet de les poser sur un bloc et de les rappeler à 20 cm.
D'accord.
Donc là, il faut un premier pas, qui est le plus dur, enfin, pour certaines espèces. Et après, ces 20 cm vont passer à 20 mètres, et là, ça va se faire tout seul.
Donc ensuite,
l'oiseau, on va le rappeler, il va revenir sur le gant, et il aura donc sa récompense.
Alors, sa récompense, c'est quoi?
Alors, c'est que de la viande.
Que de la viande.
De la viande crue. Ouais. Donc ça va du poussin d'un jour, du rebut d'élevage, à de la caille, à de la viande de bœuf.
Ouais. Donc ils sont tous carnivores.
Ils sont tous carnivores.
Tous les rapaces sont carnivores.
Tous les rapaces sont carnivores. On a certains rapaces qui sont aussi piscivores, comme les aigles pêcheurs, évidemment. Mais en règle générale, ils sont tous carnivores.
Une question que je me posais aussi lorsque je suis passé chez vous. Tous les fauconniers qui sont en place là, s'occupe de tous les oiseaux ou il y en a certains qui ont plus d'affinité avec certaines races que d'autres?
En règle générale, on s'occupe de tous les oiseaux.
D'accord.
C'est vrai qu'au fil du temps, on s'aperçoit qu'un tel fauconnier va plus se pencher sur les grands ducs, sur les oiseaux nocturnes, ce sera plus ce qu'il va apprécier.
Sa spécialité.
Voilà. Ouais. Et on le sentira bien parce que c'est une espèce, les nocturnes, qui sont très dures à dresser. Et là, on aura un fauconnier qui va les dresser, mais vraiment facilement.
D'accord.
Alors que d'autres auront moins le feeling. Ce feeling, oui.
Ouais, d'accord.
Mais le problème, c'est que quand cette personne s'occupe toujours du même oiseau, le jour où la personne n'est plus là, ça ne fonctionne plus.
Ah ouais.
Et oui.
C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Ouais. Donc il faut pouvoir, les jours de congé, remplacer cette personne.
Donc être polyvalent.
Être polyvalent.
D'accord.
Donc, le mieux, c'est que tout le monde s'occupe de tous les oiseaux.
Alors, j'ai des difficultés à dire que ce n'est pas spectaculaire quand même, parce que malgré que ce que vous m'avez recommandé tout à l'heure, j'ai quelques difficultés parce que il y a des moments dans cette présentation où les oiseaux, par exemple, rasent la tête des spectateurs. Ça, c'est quand même spectaculaire, quoi.
Ben, c'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir passer un vautour de 2m40 ou 5 cm au-dessus de la tête, c'est clair, on n'est pas habitué à ça. Donc c'est impressionnant.
Ouais.
C'est impressionnant.
Et il y a même des fauconniers qui déposent des oiseaux sur la tête des spectateurs.
Alors là, ce sont des petits faucons américains qui font 80 grammes, donc c'est tout léger. Donc là, on a un contact avec le visiteur, enfin les oiseaux. Le visiteur a un contact vraiment direct avec les oiseaux. Et ils apprécient beaucoup. Mais
bien.
Ça, alors, on a arrêté.
Alors, il y a également. Alors, quelle est la spécificité de votre présentation? Est-ce que elle diffère de différentes autres présentations, le Beauceins, Rocamadour, etc.,
non,
etc.
On est très axé sur le vol naturel des oiseaux. On ne va pas modifier ce vol. Sur la pédagogie, sur l'information qu'on apporte aux clients, aux visiteurs. On n'a pas de mise en scène par rapport à des tenues, par rapport à une musique.
Ouais.
Donc on reste très, très naturel.
Très nature.
Très nature.
Et donc vous collez très exactement à l'ONF.
À l'ONF.
Et avec ses prérogatives.
Ouais.
D'accord. Bien. Alors, on va aborder un autre volet qui est moins sympa, mais qui est tout autant intéressant. C'est le problème de l'effarouchement. Alors, on utilise beaucoup... Je le sais, enfin beaucoup. On m'a dit qu'on utilisait pas mal les rapaces pour éloigner, par exemple, des aéroports, des zones d'enfouissement de d'ordures ménagères, etc. Donc, on utilise les rapaces pour effrayer d'autres races d'oiseaux, notamment les goélands.
Alors, c'est vrai qu'en France, il y a deux sites. Où on utilise les rapaces, ce qu'on appelle en péril aviaire, donc sur les aéroports. Donc ce sont des aéroports militaires, où là on fait, on effarouche. Où là il y a une équipe de fauconniers qui effarouche les oiseaux qui pourraient être ingérés dans les réacteurs des avions.
Donc, ce qui pose problème
parce qu'un réacteur qui tombe en panne, c'est l'avion qui tombe, ou c'est des frais qui sont importants.
Et puis même pour la sécurité des passagers.
Pour la sécurité des passagers. Donc il y a deux sites en France, il y a Villacoublay et Istres,
d'accord,
au sud de la France, où il y a deux équipes de quatre fauconniers.
Et pourquoi c'est réservé à l'aviation militaire? Parce que ça serait quand même très utile.
Pourquoi? Mais
pour l'aviation privée aussi.
Civile, sur le Roissy, sur Orly, il y a beaucoup de trafic au niveau des avions, donc faire intervenir une équipe en 30 secondes entre chaque vol, chaque décollage, c'est assez court.
Ouais, d'accord.
Pour faire voler un faucon, il faut 10-15 minutes.
Ouais. D'accord. Ceci explique cela.
Voilà,
d'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va adopter une deuxième pause. Hein, une deuxième pause, et puis après, on va. Vous me direz ce que vous avez oublié de me dire, ou vous me direz les questions auxquelles vous auriez aimé répondre et que je vous pose. Alors, vous êtes d'accord ?
D'accord.
À tout à l'heure.
Rencontre avec. Rencontre avec.
Vous êtes toujours à l'écoute de RVE et je suis toujours en compagnie de Philippe Belchi et de Romuald de Roman, pardon. Messieurs, on est dans la troisième partie. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Romuald, vous venez d'évoquer hors antenne quelque chose qui est très intéressant.
En ce moment, très intéressant, l'espace Rambouillet, on est dans la période de reproduction des rapaces. Donc là, pour le visiteur, c'est maintenant qu'il faut venir, parce qu'on a des oisillons qui sont présents au public, il y a des nourrissages qui sont faits devant le public, on a des volières qui sont installées, qui sont équipées de caméras vidéo qui sont retransmises sur une télévision, où là on voit les parents nourrir les petits en direct.
D'accord.
Donc c'est vraiment la période en ce moment. Et c'est vrai qu'on est peu habitué de voir des jeunes oisillons.
Et ça dure jusqu'à?
Jusqu'à fin juin.
Fin juin,
ouais.
D'accord. Donc c'est le moment ou jamais.
C'est le moment, oui.
D'accord. Philippe Belchi, qu'est-ce que vous auriez aimé que je vous pose comme question?
Je dirais que c'est vrai qu'au printemps, il y a de la reproduction chez les rapaces, mais il y en a aussi chez beaucoup d'animaux.
Ouais.
Et que nous allons rentrer aussi dans la période de reproduction des cerfs, des biches.
Ouais.
Et on va pouvoir, en plus des oisillons, essayer de voir les jeunes fans qui sont nés à l'espace Rambouillet. Et j'en profite pour dire que ce soit à l'espace Rambouillet ou ailleurs en forêt, lorsqu'on trouve un jeune faon, un jeune animal, voire un jeune marcassin, mais surtout les faons, parce que pendant 24-48 heures, ils sont plutôt couchés, ils marchent très mal.
Ouais.
Il ne faut surtout pas les toucher, surtout pas les déplacer, parce qu'on a l'impression qu'ils sont abandonnés, mais
ils ne le sont pas du tout.
Souvent, c'est notre approche qui a fait peur à la mère.
Ouais.
La mère s'est éloignée, on l'a pas vue, et dès qu'on va partir, elle va revenir. Et si on touche son oiseau, on va mettre son odeur et elle risque
pas
de
son
ne pas
oiseau,
le reconnaître. Si on touche son enfant,
ouais,
on va mettre son odeur et elle risque de ne pas le reconnaître,
ouais,
de l'abandonner. Si on le déplace, elle ne le retrouvera pas. Donc, ceci est valable partout en forêt. Si vous trouvez un jeune faon,
surtout ne pas y toucher.
Le regardez,
ouais,
ne lui faites pas peur. Prenez une ou deux photos si vous voulez.
Ouais.
Et puis partez discrètement, n'ayez pas peur, sa mère va revenir.
D'accord.
Voilà. Et puis un dernier mot de conclusion. Vous avez dit en début d'émission d'un parc moderne. Alors je ne sais pas, ouais, si on peut parler de modernité, mais c'est vrai qu'à l'espace Rambouillet, comme dans la plupart des parcs zoologiques en France actuellement, nous attachons beaucoup d'importance à l'aspect éducatif, à l'aspect pédagogique et aussi à l'aspect scientifique. Romuald de Roman l'a évoqué tout à l'heure à travers un programme scientifique que nous avons en liaison avec la Russie sur le Pigargue de Stellaire.
Mmh.
C'est quelque chose d'important et tous les parcs zoologiques modernes du 21e siècle ne sont pas simplement des zones, des endroits où on présente des collections d'animaux, mais derrière les animaux qui sont présentés, il y a un réel souci d'informer le grand public, d'informer les enfants, de travailler sur des programmes scientifiques. Et de développer des échanges et faire en sorte que tous ces animaux que l'on voit là ne soient pas des animaux montrés pour le plaisir, mais qu'ils soient simplement des ambassadeurs pour la protection des espèces et de l'environnement.
Très bien. Si un dernier mot quand même concernant, avant de passer dans la rubrique un petit peu ludique, j'allais dire, vous étiez présent, vous aviez un stand sur le salon international de la chasse de Rambouillet.
Alors nous n'avions pas de stand directement, mais nous étions invités sur le stand de l'Office du tourisme de Rambouillet.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à l'occasion du salon où Rambouillet est mis en lumière,
ouais,
à travers ce salon qui a une certaine notoriété, l'Office du tourisme en profitait pour présenter tout l'aspect culturel et loisir qu'il peut y avoir aux environs de Rambouillet. Et donc à ce titre, nous avons été invités sur le stand de l'Office du tourisme où on parlait de l'espace Rambouillet, du Rambouillet train, de la bergerie, du château et de tous les lieux sympathiques à visiter, le palais du roi de Rome.
Et puis un deuxième aspect peut-être important, c'est que vous êtes solidaire un petit peu de l'action des chasseurs qui sont les premiers écologistes concernant la gestion de la faune.
Alors, le débat de la chasse est quelque chose,
ouais,
qui est très vaste. Il est certain que nous sommes dans une société où on aime bien réglementer un certain nombre de choses. On n'aimerait pas, je pense, que la population de cervidés soit tellement importante qu'elle remette en cause la régénération des forêts. On l'a évoqué un petit peu, mmh, en début d'émission. On sait qu'il y a des problèmes aussi sur les sangliers qui sont très nombreux, qui quelquefois se retrouvent aux portes des villes.
Mmh.
Et donc il est important, parce que c'est un choix de société, d'essayer de réguler, de faire en sorte que ces animaux cohabitent le mieux possible avec les hommes et avec toutes les infrastructures que nous avons. Pour l'instant, ces animaux ne sont pas en voie de disparition et il serait assez cruel de dire on va complètement éradiquer
du
pays les cerfs ou les sangliers. On n'en est pas là, donc il faut trouver
une régulation.
Voilà, il faut trouver un milieu d'équilibre.
D'accord. Bien. Alors, avant de terminer cette émission qui touche à sa fin, hein, ça va très vite. Hein. Alors, pour mieux cerner votre personnalité, nous allons passer par une série de questions-réponses très très courtes. Hein, très très courtes. Alors, on alternera. Vous, une première réponse. Vous, en deuxième. Monsieur Belchi, en premier, pour ne pas vous influencer les uns les autres. Alors, vous êtes prêts ?
On est prêts.
Alors,
on est prêts.
On y va. Paris ou province ?
Province.
Province.
Bien. Ciné ou DVD ?
Ciné.
DVD.
Bien. Repas entre potes ou resto gastro ?
Entre potes.
Entre potes.
Chien ou chat ?
Chat.
Chien.
Et Coluche ou Jamel Debbouze ?
Donc Coluche.
Ah, c'est difficile à répondre à cette question, parce que j'ai vu Jamel Debbouze en concert et j'aurais répondu Coluche avant, et maintenant je sais pas.
Bien, c'est votre droit. Beatles ou Rolling Stone ?
Alors là, c'est Mozart, alors je suis désolé.
Beatles.
Ok. Foot ou tennis ?
Plus tennis quand même.
Ah, oh, foot.
Bien. Alors, maintenant, pareil. Pêche ou chasse ?
À pêche.
Chasse au faucon.
Bon voilà, ben, vous voyez que chacun a une réponse à une question. Alors, pour terminer cette émission, bien sûr, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire on va se soumettre à la tradition de la question à la con, cette question à la con qui plaît beaucoup aux auditeurs. Alors, je vais m'adresser à Romuald de Roman. Gagnez-vous bien votre vie ou votre passion l'emporte sur la galère, si galère il y a bien évidemment ?
Il n'y a aucune galère, je gagne bien ma vie.
Très bien. Eh bien voilà, cette émission se termine. La semaine prochaine, d'abord merci messieurs.
Merci à vous.
Je crois que les auditeurs en auront appris un petit peu plus. Et d'une part sur l'ONF, mais d'autre part sur l'espace Rambouillet, et je pense que ça les encouragera à venir vous visiter.
Mais on est prêt à les croiser sur les chemins de l'espace Rambouillet.
Très bien, parfait. Alors, la semaine prochaine, je recevrai Monsieur Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, qui est la première région européenne. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
C'était faire les miens, nager dans tes yeux, leur élégance. Voilà que moi, je baisse les miens, longer tes jambes immenses. Tout ça m'est comme alors, si de rien. Et ta démarche, quelle élégance. Si l'on marche jusqu'à demain, on serait peut-être au bout de la France. Marseille, en fait j'en sais rien. Ça paraît possible en apparence, possible si tu veux bien. Quelle chance, on a marché, regarde bien plus loin, que nous le laisser penser, les apparences. Est-ce que l'on reste, est-ce que l'on revient? Bien sûr que l'on reste, c'est une évidence. Au bout du monde, au bout du compte, on reste un bout de la France. Au bout du monde, ici, on se sent bien. Longer tes jambes, immenses. Tout ça, mais alors toujours comme si de rien. Et ta démarche, quelle élégance. Si l'on marchait encore plus loin, nous sommes au Mali, quelle fête, quelle chance. Demain serait une chose que l'on obtient, à chercher plus loin que toutes les apparences. Est-ce que l'on reste, est-ce que l'on y tient?
You love. head. I guess I should thank you, love. For the moment, I feel bad.